Ça s'est éteint à ce moment. Oui? Ça va, vous suivez? Vous suivez. OK? M'entendez là? Vous m'entendez parce que j'ai vu que c'est éteint. Vous pouvez répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Est-ce que vous me suivez? Ah d'accord, il y a quelque chose là qui s'est passé. Un souci là. Ah, vous entendez. Mais pourquoi lui, il fonctionne pas? Vous me suivez, hein? Je pense que ça a repris. Il y a eu un certain moment que ça s'est arrêté. Ça marche, très bien. C'est ce que je voulais entendre. Donc, je reviens à ça. Donc, ça s'appelle Raash. D'accord? Ça s'appelle Raash. Voilà comment ça s'appelle le bruit. C'est un grand bruit que la Terre, elle fait lorsque. En fait, elle vomit tous les feux, les gaz, les rohot, les mistraux qu'il y a à l'intérieur. Donc elle explose. Et ce qu'elle fait aussi, c'est de faire tomber les immeubles. Oh, on préfère qu'ils soient vides, mais les immeubles, toujours, on habite dedans. Malheureusement, les gens qui sont morts, c'est des gens qui souffrent énormément sous les décombres. Ça s'appelle en hébreu mapolet. Lorsqu'il y a quelque chose, des tas de gravats, des tas de pierres, très lourdes, des tonnes, imaginez qui écrasent des petits fœtus, des petits bébés. Il y a deux cris, il y a deux bruits. Le bruit de la terre et le bruit de l'âme, le nefesh. Alors hier, nous avons expliqué la première raison que dit le magicien à Rav Katina. Il lui dit, il faut que tu saches que c'est parce que lorsque l'Éternel, quand il voit, juste je répète cette petite préface, d'abord pour rentrer dans le bain, et pour ceux qui n'ont pas écouté le cours hier. Et donc, il lui révèle par un esprit qui l'attire, pour cause des ossements qu'il met sous les aisselles ou entre les jambes, etc. Cet esprit lui dévoile une raison. Mais c'est une raison qui est vraie. C'est une raison qu'on va voir par la suite dans le Talmud de Jérusalem. Là, nous sommes dans le Talmud babylonien. Mais dans le Talmud de Jérusalem, il est rapporté cette raison-là que Rav Nehorai va dire à Eliyahu HaNavi. Nous allons voir cela. Maintenant, Rav Katina, la Gemara, elle dit, maintenant, il veut donner une raison. Rav Katina, il dit, c'est pas à cause de deux larmes. Le magicien a dit, c'est à cause de deux larmes de souffrance que Dieu a. Et ces deux larmes coulent des yeux, kaviachol, si l'on peut dire ainsi. Hein? C'est une image, bien sûr, c'est une parabole. Dans l'océan, le grand océan, Yam HaGadol. Il nous faut savoir que qu'est-ce que ça veut dire une souffrance dans l'être humain? Lorsqu'une personne souffre dans son intérieur, alors plus l'émotion est profonde, plus le kev, la douleur, elle est profonde. Elle est grande. Elle est continue. Il y a des gens qui arrivent à se détacher, se délier de ces souffrances-là. Ils guérissent. Mais il y a des gens qui acceptent ça, qui se nourrissent de ça. C'est des vrais tremblements de terre. Alors il faut savoir que la souffrance, elle ne vient pas du corps. Elle ne vient pas de l'émotion que nous avons. Non. Elle vient de la puce. étincelle, lumière, neshama, cette partie divine, lumière, que l'Éternel a déposée en un chacun de nous, c'est elle qui souffre. Et en fait, c'était une révélation, un révélateur, que le Créateur, si l'on peut dire ainsi, souffre. Il faut savoir que quand une personne elle souffre dans son âme, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il souffre encore plus que toi. Cette souffrance que Akadosh Baruch Hu, il a, hein, il te la transmet, si l'on peut dire ainsi. Je suis en train de voir pourquoi ça ne marche pas chez moi. Ok, on est bien. Akadosh Baruch Hu, il souffre, il te transmet la souffrance. Kaviachol, Kaviachol, si l'on peut dire ainsi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne a ce sentiment rikshi, profond et de peine qui est très spécial, c'est là où il va commencer à prier. C'est maintenant qu'il doit commencer à prier. Parce que c'est un signal, un réveil, comme si Akadosh Baruch Hu verse des larmes dans le Yamagadol. Nous avons toujours dit que les larmes d'un bébé, si vous les goûtez, elles sont douces. Du moins, elles ne sont pas salées. Et les larmes d'un adulte sont salées. D'où ça vient ça? Eh bien, il ne vient pas du corps. Il vient de l'âme. Et l'âme est une partie de Dieu. Comment je suis? C'est la création de Hachem. Donc si Hachem, il a du tsahar, si Hachem, il a une souffrance quelconque, si l'on peut dire ainsi, tu la ressens toi. Et c'est le vrai tremblement de terre. Je vais l'expliquer ça. Il nous faut expliquer aussi, c'est quoi deux démahot? Pourquoi deux larmes? Pourquoi dans le Yamagadol? Mais bien sûr, ce n'est pas dans le fleuve, ni dans un puits. Parce que le puits, il a une eau qui est douce. Un fleuve a de l'eau douce. Ce n'est pas là que Dieu va jeter, si l'on peut dire ainsi, les larmes de ses pleurs. Si elles sont salées, il faut qu'il les envoie dans la source de l'eau qui fait les deux tiers du globe terrestre. Ce n'est pas dans le désert qu'il les a envoyés. Ce n'est pas dans là où on habite. C'est dans un endroit où on n'habite pas. C'est l'endroit où il y a de l'eau et salée. Et il s'appelle Yamagadol. Qu'est-ce que c'est Yamagadol? Yamagadol, c'est Malchut. Yamagadol, c'est ce monde à nous qui est très triste. Dans la majorité de ce monde est mauvaise. Il y a une petite minorité du monde, c'est-à-dire une partie minoritaire de ce monde qui est bonne, qui est belle. Mais 13 années depuis la naissance jusqu'à 13 années ou 12 années pour la fille et un jour, c'est un monde de Yamagadol. C'est un monde salé, un monde dur, un monde de dinim. Lorsque Dieu y verse deux larmes, le premier, on va dire, de l'œil droit, c'est la partie ici, Kav Ayamin, c'est-à-dire c'est la partie de la sagesse, de la main droite. L'œil droit. L'œil droit, c'est l'œil d'Avraham Avinu. L'œil droit, c'est l'œil bienveillant. L'œil de Rahamim, de compassion, de miséricorde, de grâce, de hesed, de bonté, de charité. Il est accompagné dans la lignée de la main droite, du pied droit, Netzach, victoire. On va dire que Dieu y verse une larme. Elle est salée parce qu'elle vient de la souffrance. Une personne, deux choses l'une. Quand elle souffre, il y a deux façons comment se guérir, comment se calmer. Soit tu es fort, tu guéris la souffrance, la maladie. Je vais expliquer tout de suite ça. Soit tu ne peux pas supporter. Et là, tu es obligé de verser des larmes. Ces larmes vont expulser l'amertume, donc qui est définie dans la partie molécule salée, parce qu'elle vient de la givoura, elle vient des forces, des rigueurs. Il y a une aigreur, une amertume dans le sel qui se trouve dans les larmes, qui sont l'eau. Autrement dit, que nous pouvons diviser la partie eau qui est douce, mélangée avec une partie qui est salée, qui est aigre. Cette aigreur, elle vient du dîn. Elle est mélangée entre le bien et le mal. Et quand une personne, elle souffre, elle ne sait pas où est le bien, où est le mal. Parce qu'il ne sait pas encore quelle est la raison pourquoi il souffre. Est-ce une souffrance qui est rikshit, émotionnelle? Est-ce qu'elle est chair? Est-ce qu'elle est corps? Ou elle est cœur-corps? C'est-à-dire âme. Et là, son deal. Donc il y a un mélange de ça. Et ça, c'est parce qu'à l'Éternel, Hachem, béni soit-il, il est entièrement bon. Mais il y a un mélange de rigueur pour cause que nous avons provoqué cette rigueur. Je vais expliquer tout ça avec l'aide de Hachem si j'arrive à donner, expliquer les mots qui guérissent les mots. M-A-U-X. Maintenant, quand Hachem, il pleure de la main droite, c'est comme s'il fait appel à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est la main droite, c'est le Hesed. Mais il y a l'œil gauche, la larme de l'œil gauche. Ça, c'est l'œil de Yitzhak. Yitzhak, c'est la rigueur. C'est le pahad. C'est la vénération, c'est la crainte, c'est la justice. C'est la couleur rouge. C'est le din, la justice, le sang. Ça, c'est la partie gauche. Cette partie des Gevurot, elle vient d'ici, qui s'appelle Bina, Binyan, construction. Ces larmes qui descendent, une de la source de la rigueur, qui est définie en tant que Yitzhak Avinu, notre patriarche, et une qui est définie en tant que Rahmanout, c'est-à-dire miséricorde, grâce, bonté, de la partie droite. Elles vont se mélanger ensemble pour adoucir les rigueurs. L'Éternel, il prend ces deux larmes et il les verse dans un endroit très salé qui fait le deux tiers du monde, l'eau. Mais pourquoi l'eau est salée? Pourquoi elle est si rigoureuse? Attendez, pardonnez-moi. Une minute. Ok. Je reviens. Ça veut dire que Akadosh, pardonnez-moi, je suis revenu là. Lorsque Akadosh Baruch Hu pleure, ça veut dire quoi? Il sent que le monde va se détruire. Et lorsque le monde va se détruire, ça veut dire que la rigueur va l'emporter. Ça veut dire que le premier et la première condition primaire, c'était la rigueur. avec laquelle Dieu il a créé le monde. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est 6 lettres. Dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dans le Tikkunim, il a dit que Berit Esh. Bereshit, c'est Berit Esh. C'est une alliance de feu. Vous marquez ici. Bereshit. En fait, tout ce cours qu'on va faire aujourd'hui, demain, après-demain, c'est ce mot-là, Bereshit. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais faire ça. C'est marqué en rose, voilà, bravo. Oui, vous voyez bien là, Bereshit. Vous avez vu le mot? Vous avez le mot Berit? Regardez. Berit, vous avez Bet, Resh, Yud, Tav. C'est le mot qui forme Berit, alliance. Il y a 2 alliances. Il y a l'alliance de la Torah, l'étude de la Torah, et il y a l'alliance de l'organe génital, de procréation. Ces 2 bérites tiennent le monde, tiennent la terre, parce qu'ils sont ces 2 bérites cieux. Ils sont spéciaux, ils sont précieux, ils sont ciel. Et si on maintient ces 2 alliances, la terre, elle donne son abondance. La terre, elle est calme. Et même si les scientifiques disent, et c'est vrai, que les gaz, le chiton, les rouhot, c'est-à-dire les vents qui sont dans le ventre de la terre, s'accumulent et font exploser la bouche de la terre et font effondrer les immeubles qui s'y trouvent assis dessus, ça bouge. Si on accomplit Berit Esh, si on fait attention à ça, c'est-à-dire Berit, il y a le mot Berit, il y a le mot Esh, Aleph et Shin, le feu. Regardez où se trouve le mot Esh. Le mot Esh se trouve entre les 2 premières lettres Bedresh, les 2 dernières lettres Yutav, qui forment le mot Berit, comme si c'était la protection pour ne pas que le feu, que le Esh sorte de la terre. Vous me suivez? Ça veut dire que Elohim, c'est cette puissance nécessaire. Il a tous les pouvoirs avec lui. Grâce à cette création de Bérit, il maintient le Aleph et le Shin, qui sont Esh, qui sont le feu. Mais je vais dire plus que ça. C'est que le Aleph, c'est Eretz, c'est la terre. Et le Shin, c'est Shamaïm. Et Aleph, Shin. Eretz, Shamaïm. Waouh! La terre obéit au ciel. Et le ciel obéit au Bérit. Si on fait les lois, les Mishpatim, les statuts, les commandements que Elohim, il a statué, elle a implanté à Har Sinaï, tout le Ham Israël et 613 mitzvot, c'est ça, Bérit, dans la valeur numérique. 613 avec le mot, 612 plus le mot. Alors, tout se maintient. Même si la météo, même si les scientifiques indiquent avec une sûreté, avec une certitude, que dans une semaine, tel et tel endroit dans le monde, selon le cosmos, la planète, cet endroit va exploser. Sinon, le peuple d'Israël, on maintient les lois des 613 mitzvot du Bérite, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien. Même si c'est vrai que la Terre, elle va exploser. Elle va sortir ses gaz. Il y a trop de ballonnements. Mais ce n'est pas elle qui décide. C'est ce mot qui décide. Ce mot de Bereshit. Berit Esh, Berit Feu, et Berit Aretz et Shamaïm. Le ciel et la terre, Eretz c'est la terre, Shamaïm c'est le ciel, obéissent à des lois suprarationnelles. C'est-à-dire la lumière de Hachem, les lois de Hachem. Et ces lois de Hachem, il les a instaurées. Cependant, il est écrit dans Ésaïe ce que je viens de vous dire. Imlo beriti yomam valaila. Ésaïe a dit, s'il n'y a pas mon étude de la Torah, imlo, s'il n'y a pas, beriti, beriti mon alliance, si vous accomplissez pas mon alliance, yomam valaila, le jour et la nuit, hukot shamay va'aretz lo samti. Les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas instauré. Ça veut dire qu'ils s'effondraient. Et le monde deviendrait tohu vavohu. Chaos, solitude. Je le tiens ça par le premier verset et le deuxième verset de la Genèse. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz, sept mots. Il y a sept fleuves, etc. Ve'aretz ha'eta tohu vavohu. Et la terre était chaos et solitude. Ça veut dire tremblement de terre. Comme si l'Éternel fait allusion dans les premiers mots que Bereshit, c'est Berit Esh, Berit Shamay Vaharetz. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si une personne, elle comprend d'où vient le malaise qu'elle trouve, à chaque fois qu'elle a une épreuve, elle peut guérir cela. Le roi Salomon a dit dans le chapitre 18, verset 4, verset 14, il a dit comme ça, dans les proverbes, je parle. Ish, l'esprit d'un homme, yichalkel mahalehu, peut guérir sa maladie. Veruach necha'a, et un esprit brisé, cassé, triste. Mi isa'en, qui peut le supporter? La première traduction qu'on va dire, toute simple, une personne, elle a l'esprit. Elle a l'intelligence. Et elle a aussi un corps. Qui dirige qui? Bien sûr que l'esprit spirituel dirige le corps, comme un homme chevauche un âne. L'âne, c'est matériel. Le corps est matériel. Le corps ne peut pas diriger l'esprit. C'est pas possible. Donc maintenant, quand le corps est malade, ça veut dire que l'esprit, il est quoi? Ça veut dire qu'il est au chômage. Ça veut dire qu'on n'a pas employé nos ménages, nos stratagèmes, nos réflexions, notre chorma, bina, da'at, habad. On ne les a pas utilisés pour gérer les capillaires, les tendons. T'as la sphère, toute la sphère tissulaire, le tissu de chaque organe. Ça veut dire qu'ils sont à l'abandon. L'âne, il marche tout seul. Il mange ce qu'il trouve. Ça peut lui arriver de manger n'importe quoi. Il peut manger même des fois du poison sans se rendre compte. Où est l'esprit? Où est le chevaucheur? Où est le manigue? Où est celui qui est le commandant du bateau? C'est un bateau qui va à l'échec. Il va chavirer, il va y avoir une chvira, une brisure. Donc l'esprit doit gouverner le corps. Maintenant, ça c'est le sens simple. Vient Rashi, Rabbi Shlomo Ishaqi, le prince des commentateurs. Il prend sa plume, il la trempe dans l'encre et il écrit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire Ruach Ish, l'esprit d'un homme? Qu'est-ce que c'est un homme ici? Adam Gibor. Gever. Gever, ça veut dire fort. Adam Gever. Qu'est-ce que c'est cette Gevura? C'est quoi cette force qu'il a, cet homme? Chez Eno Mekabel Shum de Aga. Rachid. Il n'accepte aucune anxiété, aucun stress. Il ne laisse pas rentrer le stress dans son cœur. Parce qu'il sait que s'il rentre dans son cœur, c'est l'intrus qui est rentré dans le poulailler. Là-bas, il va faire des massacres. Il va rentrer dans le subconscient du cœur. Il va planter toutes les ronces, toutes les épines, les apitoiements, les stress, toutes les maladies. Mais s'il est fort, et je dis bord, il éloigne cela. Il éloigne que de suite, il éloigne les déagones. Gibor, il est puissant, il met des barrières à ce que ce qu'il entend dans les informations ne doit pas rentrer en lui. Donc il ne tombe jamais malade. Maintenant, si cet homme-là, il a laissé rentrer, alors qui va supporter cet esprit-là? Personne ne pourra le supporter. Parce que lorsque l'esprit lui-même, il est malade, il n'a pas de quoi combattre. Vous comprenez? Il n'a pas avec quoi combattre le corps. Le corps, il est infesté maintenant de beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, atzmout, tristesse. Qui va le guérir? Le corps ne peut pas gérer l'esprit malade. C'est impossible. C'est puissant ce qu'il dit, Rashi. Cette phrase-là, vous le savez très bien que c'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui l'a dit il y a pas mal d'années. Hein? Aujourd'hui, tous les psychologues, les psychiatres, ils disent qu'il faut gérer les émotions, il faut gérer les esprits, il faut gérer... Ouais, c'est vrai. Mais la cause première, l'auteur de tout ça, c'est le roi Salomon qui a dit ça. Mais c'est magnifique. Donc maintenant, écoutez-moi. Lorsqu'il advint qu'il y a une tristesse dans le corps, de deux choses l'une, on l'expulse parce que je suis fort, parce que mon esprit est puissant et il peut supporter cette maladie. Et ça, ça peut le guérir. Ou bien l'autre façon qui est la plus simple, c'est de verser des larmes. Parce qu'en expulsant les larmes, on va jeter le poison salé qu'il y a dans l'amertume qui se trouve dans les cellules cancéreuses. Et lorsque les cellules cancéreuses ne sont pas nourries, parce qu'ils vont expulser leur poison, à ce moment-là, l'homme, petit à petit, il va guérir. C'est ça que le roi Salomon a dit. Ruach Ish, l'esprit d'un homme, parce qu'il faut regarder toujours l'esprit. Les émotions, qui viennent d'un esprit pur, lumière, qui sont rattachés à Elohim. Il va rentrer dans Maaseh Bereshit. Il va rentrer dans la création du monde, c'est-à-dire dans le projet initial de l'architecte Elohim qui a créé tout ce corps. Et le fait que tu te relies à lui, c'est lui-même qui te guérit. Parce que l'esprit, tu l'as eu d'où? C'est pas le mental menteur, je ne parle pas de lui. Je parle d'un esprit suprême. Un esprit qui vient de l'au-delà, qui est dans ton âme, qui est à l'intérieur de toi. Ton âme qui t'aime, parce que Dieu, ton créateur, est amour. Et tu vas injecter à toutes les cellules qui te font mal, qui sont infectées ou affectées de poison, de ce qu'on appelle l'acidose, des acides. Il faut savoir que cet amour va les adoucir. Parce que l'amour, elle est alcalinisante et elle va les guérir. C'est mieux que tous les antibiotiques qui n'ont qu'un tic, c'est de détruire toutes les cellules qu'ils rencontrent et qui font un ravage. Pour ça, le roi Salomon, il a dit, la seule solution, ce n'est pas les antibiotiques. C'est pas. On a besoin, bien sûr, si c'est dans un cas très, très, très difficile, lorsque l'esprit de l'homme n'est pas fort. On a besoin immédiatement de l'amener à l'hôpital et de le faire surveiller, de le guérir. Vadaï. Mais là, je parle qu'il faut la régénérescence par l'esprit qui guérit les cellules. Et un des esprits malins que nous devons avoir, c'est de copier de Dieu. Lorsque Dieu, l'Éternel, il voit qu'il y a le Goa, il y a qui voit les Zevaot. Lorsqu'il y a le tremblement de terre qui doit arriver, il mélange son amour de l'œil droit en versant une larme. Il le mélange avec l'œil gauche qui verse une larme encore plus salée, qui vient de l'origine de la rigueur. Il les mélange ensemble. Et maintenant, ces larmes-là, elles ont la force de descendre même dans Yam HaGadol. C'est-à-dire dans le digne du digne du digne du digne, dans le mauvais décret le plus salé. Et lorsqu'elles atterrissent là-bas, elles arrivent par télépathie de la puissance de Dieu d'adoucir la rigueur. D'adoucir la rigueur. Vous voyez de là quelque chose. Que l'œil droit de Dieu qui a versé une larme, qui est salée, mais qui est du côté droit, Chochma, Chesed, Netzach. C'est quoi Netzach? Victoire. Une larme d'amour qui vient de l'œil bienveillant d'Abraham Avinu, le prototype de l'amour, de la foi, de la croyance. Une larme de la source de la foi. D'Abraham, de la croyance, elle peut guérir un corps qui ressemble à Yama Gadol, qui est rempli de sel, d'acidose, qui est rempli de tous les stress du monde. Et avec ça, tu arrêtes le tremblement de terre. C'est ce que j'apprends de ce Tanakh. Nous allons revenir après. Mais qui est-ce qui gêne? À arriver à ça. Écoutez bien. Juste écoutez bien ce cours. Dans le Talmud, il s'appelle comme ça. En araméen, il s'appelle Goa. Vous savez que il n'y a rien qui m'échappe quand je dois étudier la chose dans sa profondeur. Parce qu'il faut sortir dans la graphie du mot que nos sages, dans leurs plumes très précieuses, tellement valeureuses, ils vont écrire un mot, celui-ci. Tremblement de terre s'appelle Goa. Ça veut dire que la terre ne supporte pas les habitants qui sont dessus. Elle ne supporte pas. Nous verrons les raisons pourquoi. Et elle est mit parat, mishtolet. En hébreu, ça veut dire elle s'énerve. Et quand elle s'énerve, elle envoie tout. Elle fait gicler tout. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important de comprendre pourquoi. Chers amis, écoutez bien. Il y a la lettre Guimel, oui. Guimel. Il y a la lettre Aleph. Vous avez vu? Il y a la lettre Vav. Vous avez vu? Et la lettre He. Quel est le mot qui est formé dans ce mot de Goa? Il est formé un mot que vous connaissez très très bien. Je vous le marquais de suite. Voilà ce qui est marqué ici. Celui-ci. Gaava. C'est quoi Gaava? Orgueil. L'orgueil de l'homme. L'orgueil, gars. Voilà le mot Goa. Gaava. Orgueil. Il est marqué dans les paroles de nos sages quelque chose. Kolamidgae, toute personne qui s'enorgueillit. Omer Akadosh Baruchou. L'Éternel dit, si l'on peut dire ainsi, En ani vahu yicholim laduri ahad. Lui et moi, on ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Cet homme me repousse. Nos sages ont dit, Kolamidgae, tout celui qui s'enorgueillit, Dohek raglé à Shekhina. Comme si il repoussait vers le haut les pieds de la majesté divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pieds de Dieu reposent sur terre, si l'on peut dire ainsi. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ésaïe. Hashamaim kisi. Dieu dit comme ça, au nom de Dieu, le prophète au nom de Dieu. Hashamaim, les cieux sont mon trône. Vaharetz, et la terre, sont hadom raglaï. Ce sont le pose-pied, ce sont l'escabeau de mes pieds. Imaginons que Dieu du monde, du Kissé à Kabod, tout son corps, c'est une imagination, hein, d'accord, vers la terre. Et ses pieds reposent sur terre. L'orgueilleux, qu'est-ce que c'est un orgueilleux? C'est celui qui lève la tête. Donc si tu lèves la tête et tu ne laisses pas Dieu poser ses pieds, c'est-à-dire les 10 orteils sur la terre, elle ne sera pas protégée. Et la terre adore l'adoucissement de son créateur qui pose ses pieds sur elle. Elle veut recevoir le créateur chez elle. Mais l'orgueilleux, il repousse les pieds de Dieu. Alors Dieu, il dit, je ne peux pas habiter avec lui. Je suis obligé de remonter mes pieds. La terre souffre de ça. Et quand elle souffre, alors le ballonnement commence. Et alors la gava crée la goa, le tremblement de terre. Première explication que je donne. Nous allons continuer sur ce mot-là. C'est quoi Zevaot? Zevaot, regardez avec moi. Zevaot, vous avez vu, il y a le Zayin. Il y a le Vav, le Aïn, le Vav et le Tav. Nous pouvons lire Zé en hébreu, c'est Zé, Zé, pronom démonstratif Zé, Evout. C'est quoi Evout? Injustice. Tu as décliné la justice. Tu as torpillé, tu as dévoyé de la justice. On appelle ça, dans le terme de la halakha, Aïvout ad-Din. Tu as massacré la justice. S'il s'appelle Zevaot, c'est qu'il y a un problème d'injustice dans le monde. Comme l'Éternel a créé la terre et le ciel avec Elohim, qui est la justice, alors il envoie les Zevaot. Il envoie ça. Il dit Zeivut. Ce n'est pas des phénomènes climatiques, cosmiques, interplanétaires. Oui, elles existent. Mais pourquoi elles explosent à un certain moment, à une année et pas à une autre? Pourquoi à tel et tel endroit et pas à un autre? C'est là où il y a le Eivut. Juste, il faudrait savoir. Je vais dire ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de calme en même temps. Mais une vérité que je pense. Tremblement de terre en Turquie, en Syrie. Ok. 30 000, je ne sais pas combien de personnes sont décédées. Il est marqué qu'il est interdit de jouir, d'être content, lorsque ton ennemi subit la chute. Surtout lorsque leur maison chute, qu'on appelle en hébreu mapolet. Ça veut dire nefilat binyanim. Dégradation, écroulement de bâtiments. Écroulement des yesodot, des fondements. La terre lâche ses fondements littéralement. Les murs, les tonnes de gravats disparaissent, vont en éclats. C'est vrai. Nous avons vu ça ici. Mais nous avons vu aussi qu'en Eretz Israël, ça a tremblé. Il y avait quelques tremblements de terre, d'après ce que j'ai appris, un peu à Natania, un peu à Anana, et tout le Ezor là-bas, tous les. Pourquoi? Il va me dire, c'est normal. Lorsqu'il y a une catastrophe quelque part, pas loin, eh bien la terre, elle commence elle aussi à trembler. Bien sûr que sur ça, on ne va pas faire une bénédiction. On ne va pas dire, puisqu'il y a un petit tremblement de terre, l'église a commencé à bouger, ou bien les bougies ont bougé, ou les cadres, ou les lustres se sont mis à trembler. Sur ça, on va dire chez Kohogratomaleolam, que sa puissance, sa force remplit le monde. On ne fait pas de bénédiction sur ça. La bénédiction est seulement lorsqu'il y a Nefilat Binyanim, lorsque les châteaux de Dora Palaga tombent, c'est-à-dire les châteaux qu'ont construit la tour de Babel, se fracassent. Alors on commence à faire des brachot, qu'on a été sauvés de ça. Mais on rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour une cause qu'on n'a pas encore bien expliquée. La première cause, nous avons dit qu'il pleure parce qu'il voit la souffrance de ses enfants dans l'exil. Donc ça parle en général dans le monde, dans son monde, mais pas spécifique pour Eretz Israël. Mais nous avons étudié quelque chose maintenant qui revient à Eretz Israël. Dans le Talmud de Jérusalem, dans son chapitre 9, il parle de ça. Eliyahu HaNavi, Zachor Letov, que son bien se déverse sur le monde et qui nous amène Mashiach, qui nous vient et qui nous donne l'assurance que Mashiach arrive. Ça sera la plus belle des choses. Eliyahu HaNavi, Sha'al le Rabbi Nehorai. Il lui a demandé à Rabbi Nehorai, il lui a dit, Rabbi, Lama ba'im za'avot ba'olam. Pourquoi il y a ça dans le monde? Pourquoi? Et il lui parle en Eretz Israël. Je vais vous dire pourquoi. Il dit, pourquoi en Eretz Israël il y a les Eva'ot? Rabbi Nehorai lui dit, parce que le peuple d'Israël ne donne pas la dîme, non pas le maaser et la trouma. Écoutez ce cours, cette réponse que Rabbi Nehorai, alors on dit que Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes. Il y a un avis, fréquentez Rabbi Meir Baalanes. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Meir, Meir éclairé. Il trouvait la réponse claire, lumière, qui apaisait les personnes qui écoutaient ses cours. Nehorai, Nahar. Nahar, c'est Rom Nahar en hébreu. Nahar, c'est le fleuve. C'est aussi la lumière, le jour, la lumière du jour. Et il lui a dit, parce que les Béné Israël ne donnent pas la dîme comme il faut. Vous avez un terrain. La Torah, elle nous dit deux choses. Ce terrain-là, il faut donner la trouma gdola, c'est-à-dire, vous donnez même une graine au Kohen. Après, vous donnez le maaser. C'est-à-dire que sur chaque dit. Alors, il y a un cinquantième, un soixantième et un quarantième. Chaque 50 pommes, tu donnes une pomme. Chaque, il y a ceux qui ont des bons œils, ils la donnent à chaque 40. 40, 50, 60. Vous avez 40 pommes, vous donnez une. Si vous avez un bon cœur. Vous avez un cœur moyen, vous donnez une par 50. D'après ça, tu vas gagner un peu plus, toi. Ok. Mais celui qui a un œil qui n'est pas bienveillant, Tsarataïn, il a un œil 3, il donnera 1,60. Sur chaque 60, il donne 1. Après, on doit donner au Lévi, et on doit donner un dixième. Chaque 10 pommes, tu dois donner une. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu, il dit, la terre ne t'appartient pas. Elle est à moi, la terre. Le ciel, c'est sûr et certain qu'il ne t'appartient pas, comme je l'ai expliqué hier. Parce que s'il t'appartenait, ramène quelques étoiles que Dieu avait utilisées pour détruire la génération du déluge, parce qu'il a vidé le réservoir de ces étoiles d'eau bouillante, en passant par cette planète qui s'appelle Kima, qui est entourée de Mea, Kimea, comme 100 étoiles chaudes. Là-bas, il a pris l'eau, il a fait descendre de l'eau bouillante sur la génération du Maboul. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé l'organe de procréation à des fins que Dieu n'a pas fixées dans ce monde. Je reviendrai dessus. Vous avez fait des choses anormales. J'ai fixé un monde avec une structure, avec ce qu'on appelle une ma'arechet, un mécanisme, comme une montre qui marche bien. Vous avez tourné la montre de l'autre côté. Vous tournez la montre de l'autre côté, vous avez dérangé la nature. Je vais ajouter un petit mot sur ça. La nature en hébreu s'appelle Teva. C'est quoi Teva? C'est la nature. Alors si je vous demande les kabbalistes, à quoi ressemble ce mot Teva? que vous connaissez tous si vous parlez l'hébreu. Il s'appelle Matbeya. Qu'est-ce que Matbeya? C'est une monnaie. C'est une pièce de monnaie. S'appelle Matbeya. Dans la pièce de monnaie, il y a deux phases. C'est l'effigie de deux phases. Une des fois, c'est le garçon. Une des fois, c'est la fille. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Matbeya, dans la monnaie que Abraham Avinu avait créée à l'époque, dans sa génération? Car oui, Abraham Avinu a créé une pièce, comme un roi, comme un État, qui fait la pièce en France ou en Israël, le shekel, etc. Il y avait d'un côté une vieille et un vieux, ça c'est Abraham et Sarah, et de l'autre côté une Bétoula, c'est-à-dire une vierge. Donc il y a en fait une chose et son contraire. Il y a la vieillesse, Abraham et Sarah, mais il y a quand même la Bétoula qui est la jeune fille. Le Teva, c'est comme le Matbéa. C'est comme la monnaie. Le Teva, c'est un couteau à double tranchant. La chose et son contraire. J'allais l'appeler le Herev Amitapechet. C'est l'épée tournoyante que l'Éternel a déposée au seuil de la porte du Gan Eden pour ne pas que Adam et Hava re-rentrent à l'intérieur et mangent du fruit de la vie. Etzahayim. La mea Hashem yabalek chinami, Herev Amitapechet. Qu'est-ce que c'est Herev Amitapechet? C'est une épée flamboyante, très chaude, mais qui a double facette, qui se renverse, tournoyante. En fait, c'est quoi? C'est la nature. La nature, elle est magnifique. La nature, elle est belle. Elle est merveilleuse. Pour celui qui voit bien, celui qui accomplit Berit Esh, celui qui fait attention au statut que Hachem Ibarach nous a donné. Que Hachem Ibarach, il a dit aussi attention à ne pas faire comme le Dora Maboul. Attention à ne toucher le feu qu'il y a à l'intérieur. C'est une pièce à double côté. C'est l'effigie de deux êtres qui se valent, mais qui sont l'un l'opposé est nettement opposé de l'autre. Mais nous avons besoin de ça. La terre obéit à une structure, à un mécanisme. Ce mécanisme, c'est Dieu. Mais il a figé des lois qui le gèrent, qui le dirigent, comme l'esprit dirige le corps. Ish veruah mechalkel mahaleu. Lorsque la terre est malade, c'est que l'esprit est absent. Que l'esprit dirige la terre, sinon elle explose. Le corps explose. Aucun psychiatre ne peut se sortir de là. Parce que lorsque l'esprit lui-même est malade, pourquoi il est malade? Parce qu'il n'obéit pas à la loi que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire à la nourriture spirituelle des lois que Dieu a figé dans Maaseh Bereshit. Parce que Bereshit, c'est aussi Chokhma, sagesse. Ok? Avec cette petite préface, je vais répondre. Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Nehoraï à Eliyahu Hanavi? Comme si Eliyahu Hanavi ne connaissait pas la vérité. Il a besoin, lui qui est un ange, qui connaît tous les secrets du monde. Le seul qui sait où est enterré Moshe Rabbeinu, bientôt le 7 Adar. Il demande à Rabbi Nehoraï de lui donner des leçons. Oui. Parce qu'il va lui donner une autre raison. Mais il veut entendre l'esprit des sages. Rabbi Nehoraï lui dit parce que le peuple d'Israël ne donne pas cette dîme. Ça veut dire qu'il considère en fait que ça leur appartient. Gava, orgueil, Zevaot, Zehivut. Mais encore plus. Ve'azut. Ve'azut. C'est le mot qui veut dire l'effronterie. Azut panim. Qu'est-ce que c'est azut panim? Azut panim, c'est qu'il a le front effronté. Il est effronté, aspanim, audacieux, dans le mauvais sens. Tout se trouve ici. Lorsque vous ne donnez pas aux pauvres ce que Dieu vous a donné, c'est-à-dire la dîme, le prélèvement, la hala, vous êtes audacieux, vous êtes effronté. Parce que vous pensez que la terre vous appartient. Dieu dit très bien, je vais lui demander à la terre de vomir toutes les récoltes qui reposent sur elle, qui grandissent en elle. Parce que j'ai un ange pour chaque tige de blé, pour chaque tige de végétation qui lui dit pousse. S'il ne lui dit pas de pousser, c'est une terre stérile. Je vous ai demandé de faire le septennat, la shemitah, de donner le maaser aux pauvres, à l'orphelin, à l'étranger, aux lévi, aux kohen. Ce sont mes serviteurs. C'est eux qui servent dans mon palais, dans le Beth Amikdash. Je vous donne la récolte, je vous donne tout ce que vous voulez. Mais ne pensez pas qu'elle est à vous. Qui lit qu'on arrête. Dieu a répété maintes fois dans la Torah, car à moi appartient la terre. Tu sais où est la preuve? Je peux faire sécher complètement cette terre. Elle est stérile pendant des années. C'est un phénomène climatique, cosmique, interplanétaire? Non. Elle est régie par des lois. Il y a le ciel qui la dirige. Le ciel, c'est le visage de la terre. C'est la volonté de la terre. C'est le sourire. C'est la terre. C'est le maître. C'est la semence de la terre. Si elle ne regarde pas, Dieu se retire. Qui fait que Dieu se retire pour ne pas influencer le bonheur, la lumière, la récolte, la paix sur cette terre? C'est l'orgueilleux qui est entre eux. L'orgueilleux se met entre Dieu et la terre. Ce fut un temps du Dora Palaga, la génération du déluge, Sodome et Gomorrhe. Et ça aujourd'hui. Toute personne qui a parlé d'une façon hautaine, orgueilleuse, contre les enfants de Hachem. Nous avons vu ce qui s'est passé. Alors, parce que Zehazout, Zehivout, il y a les deux en même temps. Parce que quelqu'un qui a la gava, hein, Mayesh, quelqu'un qui a la gava, il a la azout. Il a l'audace. Il est effronté. Et il est me'ouvat. Me'ouvat, ça veut dire il est tordu. Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, me'ouvat lo yuchal litkon. Quelqu'un de tordu ne peut pas se régler, ne peut pas s'arranger. Parce qu'il est têtu. Il pense que tout est à lui. Il est orgueilleux. Dieu dit, moi et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Donc qu'est-ce que fait la terre? Comme la terre, elle a du plaisir à recevoir, si l'on peut dire ainsi, les pieds de Dieu. Il repose chez elle, en elle. Et toi, l'orgueilleux, toi, l'effronté, toi, le mets avec Edadin qui provoque l'injustice. Tu bafoues la Torah. Tu bafoues le Berit Esh. Ok. Je vais dire à la lettre Esh de sortir de là. Le Berit, il va rester séparé. Et la lettre Esh de Bereshit, elle va sortir. Les cieux et la terre s'effondrent. Pour ça qu'on entend Rahash, on entend un bruit énorme. Ah, tout ça pourquoi? Parce qu'on ne donne pas trop mot au maasrot. On ne fait pas le chesed avec le pauvre. Qu'est-ce que fait Dieu? J'ajoute quelque chose. Quand tu ne donnes pas la trouma au Kohen, quand tu ne donnes pas le maaser au Lévi, je voulais superposer, avec votre permission, c'est fait maison ce que je vais vous dire maintenant. La trouma, c'est l'œil droit. Terouma au Kohen. Qu'est-ce que le Kohen? Le Kohen, c'est la bonté. C'est la charité. C'est le Chesed, le Kohen. C'est celui qui te reçoit dans le temple. Tu dis, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un péché. Viens, mon fils. Tu vas avouer la vérité. Tu vas te repentir. Tu vas amener un sacrifice. Et une psychparalique, comme on dit en arabe. Ce sacrifice-là, il va compenser la place que tu devais, toi, subir. Eh bien, c'est lui qui va la subir. Il lui parle gentiment. Aaron à Cohen, ça, c'est l'œil droit. L'œil gauche, c'est l'œil du Lévi. Il est rigueur. Les Lévites sont rigueur. Pourquoi les Lévites sont rigueur? Parce qu'ils sont nés le deuxième jour, lundi. Les eaux furent séparées le deuxième jour. Ça, c'est le Lévi, c'est le deuxième jour. Le premier jour, c'est le Kohen. Le deuxième jour de la création, c'est le Lévi. C'est pour ça que Korach, qui était Lévi, il voulait la place. Il dit, c'est moi le gouverneur. Dieu a dit, ne touche pas à Moshe. Ne touche pas à Aaron, s'il te plaît. Moshe lui dit, attention, tu es en train de faire quelque chose de grave. Tu es en train de prendre le premier jour et le rendre le deuxième. Et le deuxième, le premier. Alors il lui dit, non, c'est moi le Kohen. Il a dit, mais toi tu es Lévi. Toi tu es rigueur et lui c'est la bonté, c'est l'amour. Il lui a dit, non, c'est moi l'amour. Il lui a dit, tu sais où est la preuve? Tremblement de terre. Je vais ouvrir la terre et tu vas tomber dedans. Waouh! La Gava fait un dysfonctionnement des structures fondamentales du monde. Elle ébranle tout. Elle écroule tout. Un bâtiment aussi haut, il peut s'écrouler à cause de l'orgueilleux qui a construit cet immeuble et qui a dit c'est à moi le monde. Donc il a la Goa, le tremblement de terre. Il a les Zéva, parce que Zéivout, Vé, Zé, Merouvat, ça veut dire il est tordu dans la justice. Et il est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, Zéivout, Everazout, il est effronté. Eivout, Verazout, et effronterie. Audace. Trois mots se relient avec tout le Talmud. Tu n'apportes pas la trauma, tu n'apportes pas le maaser. Donc en fait, il parle des restes Israël. Et quelle est la preuve qu'il lui dit Rabbi Nehoraï que c'est vrai? Rabbi Nehoraï, il prend un verset de la Torah qui est écrit dans le Deutéronome et il le confronte, il tape, il frappe, il éclate. Une main droite avec la main gauche. Tac! Quoi? Je suis en train de vous faire un jeu de mots universel. Il prend un verset de la Torah qui est Rahamim. La Torah, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est le Kohen. Et les Tehillim, c'est le Lévi. Les Tehillim, c'est la Torah orale. Comme la dimension Torah, Kohen, Lévi, Talmud. La rigueur se trouve dans le Talmud, se trouve dans la Torah orale. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué dans Deutéronome. Aîné, écoutez ça. Moshe Rabbeinu, il nous dit ça dans la Torah. Et là, on voit que ce sont des images, des métaphores. Aîné Adonai, les yeux de Dieu, bah, ils sont braqués. Ils sont observants. Bah, c'est-à-dire la terre d'Israël, Jérusalem, le temple. Mereshit Hashana ve'ad Aharit Shana. Depuis Rosh Hashana jusqu'à la fin de l'année, le mois de Hadar. Nous avons ici un verset très puissant. L'Éternel, Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah que les yeux de Dieu observent la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Nous, on sait que Réchit, ça veut dire le début. Parce que normalement, le mot Réchit s'écrit Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Et là, il est privé de la lettre Aleph. Il est marqué Réchit, comme ça. Comme ça. Normalement, ici, il doit marquer Aleph, comme Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire avec sagesse, au commencement. Reshit, les prémices. C'est vrai. Mais ici, Reshit, il est privé d'Aleph. Pourquoi? Et ça veut dire le début de l'année. Quel est le début de l'année pour nous, calendrier juif? C'est le mois de Tishrei. Oui? Le voilà. Tav, Shin, Resh, Yud. Tishrei. L'Éternel, il a ses yeux sur la terre d'Israël depuis Rosh Hashanah, le mois de Tishrei, jusqu'à la fin de l'année. Donc on voit que l'Éternel aime la terre d'Israël. Il lui donne les récoltes, il lui donne l'abondance. Tout est magnifique. Il y a la paix, il y a tout. Mais il y a un autre verset. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Makara? Oui. Ça va, vous me suivez? Vous êtes avec moi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a un autre verset qui dit quelque chose d'autre. Il est marqué dans les psaumes. Hamabit la'aretz va'tirad. Iga be'arim be'ha'ishanu. J'explique. L'Éternel observe la terre et elle tremble. Il frappe les montagnes et il les fait fumer. Il parle de quoi ici? L'Éternel regarde la terre d'Israël et il la fait trembler. Il regarde les montagnes, il les frappe et il crée la fumée, donc le volcan. Déjà de ce verset du roi Salomon, du roi David, on peut comprendre que ce n'est pas un effet climatique, cosmique, interplanétaire, naturel, comme l'expliquent les scientifiques. Quel est le scientifique le plus grand qu'il y a combien d'années? Les scientifiques ont commencé à parler maintenant, on va dire, il y a 2000 ans. On va parler de Platon, d'Aristote, tous ces grands de Athènes, qui à la limite étaient Athènes, athées, et qu'ils avaient une antenne bizarre. Il était le plus sage jusqu'au lit. Quand il devait faire ce qu'il a à faire, parce que son petit crocodile, il lui dit de mordre, mais il le faisait. Mais où était Hachem? Où est ta science? Est-ce qu'il peut être ce grand philosophe, ou grand astronome, ou grand scientifique qui connaît tous les rouages de la nature, comment elle fonctionne? Est-ce qu'il peut être comme le roi David? Même pas le petit ongle du roi David. Même pas le petit, la petite chevelure là. L'épaisseur d'une chevelure, il ne peut pas être. Qu'est-ce que dit le roi David? Dieu, juste en observant la terre, tu l'as fait trembler. Waouh! Ce n'est pas les ballonnements, ce n'est pas les gaz. Tu frappes les montagnes par ta parole. et le volcan surgisse. C'est extraordinaire. Donc on voit ici une contradiction. D'un côté, on dit que l'Éternel, il regarde la terre d'Israël depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année. 12 mois de l'année, il la regarde avec bienveillance, il lui donne l'abondance, la richesse, la récolte. Tout le monde tranquille, à le shalom. Et de l'autre côté, tu dis, Hamabit la haaretz vatir'at. Tu regardes la terre, elle tremble. Quand elle tremble, ou elle est bonne, ou elle est bien. Rabbi Déhora, il dit, oui. C'est une contradiction lorsque le peuple se contredit. À quel moment j'ai dit le verset, que l'Éternel observe la terre avec bienveillance, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, quand le peuple d'Israël font la volonté de Dieu. Quand ils se considèrent comme des enfants de Dieu. Ils obéissent. J'allais juste ajouter quand ils ne sont pas effrontés. Et quand la Torah elle dit Réchit, quand ils amènent le Réchit, c'est quoi Réchit? C'est les prémices. Ils amènent la Trouma, ils amènent le Maaser. Ça, c'est la sagesse. Alors, Béréchit, lorsque tu accomplis le Réchit, c'est-à-dire les prémices, car les prémices de la création du monde, c'est la sagesse de Dieu, incluse dans la bonté, la grâce sous la loi et la loi. Sur la grâce, tu fais ta volonté de Dieu. Alors il regarde la terre, il lui dit, tais-toi, ne bouge pas, dans l'heure des fruits. Et la terre obéit. Mais il y a des gaz en dessous. Calme-toi. Et confiance en moi. Tu m'appartiens. Mais à quel moment Dieu, il regarde la terre sévèrement et elle tremble? Et elle ne donne pas de fruits. Au contraire, elle donne des volcans. Même la roche des montagnes, elle fait couler la larve, le feu brûlant. C'est quand ils ne font pas la volonté de Dieu. On voit de là que la Torah, elle est l'oxygène, l'âme du monde. Incroyable. Comment Rabbi Nehoré il dit à Eliyahu HaNavi? Eliyahu HaNavi s'est délecté des paroles de brillants, lumineux, de Rabbi Nehoré. Maintenant, Rabbi Nehoré, il entend une réponse de Eliyahu HaNavi. Il lui dit comme ça. Il lui dit, mon fils, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est une vérité. Mais je vais te donner l'essentiel des choses. Aïkaran chez le Devarim. Ça veut dire que je vais te donner le fondement, le vrai fondement. Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi? Il lui dit comme ça. Il dit, lorsque moi, l'Éternel, je vois ma maison détruite. Je vois le temple complètement ruiné. Je vois la Shekhina en train de pleurer. Je vois mes enfants aller en exil, car je les ai chassés de ma table. J'ai renvoyé, littéralement répudié la maman, la Shekhina. Pas encore. Et de l'autre côté, je vois les rois idolâtres des nations, s'asseoir dans les théâtres, dans les cirques, dans les festins. Ils sont dans la tranquillité. Ils mangent, ils boivent. Mais ils font toutes les bêtises. Je me mets en colère. Et quand je me mets en colère, je regarde la terre d'Eretz Israël. Je vois le cœur, l'âme de Jérusalem, le temple détruit, alors, mit aner, je soupire, et de mon soupir, la terre, elle fait le pire. Et elle expire. Et elle fait envoyer tout en l'air. Qu'est-ce que j'ai déduit de cette réponse? À cause de l'orgueil. Quand je vois la pauvreté de la Shekhina, la bassesse, la petitesse, la honte, l'humiliation de ma maison, qui n'est pas encore construite, ça veut dire, âme Israël, vous n'avez pas encore fait votre devoir. Vous avez encore la haine gratuite. Le temple est encore détruit. Mais c'est pas pour ça que j'amène encore le déluge, tremblement de terre. C'est parce que de l'autre côté, je vois les orgueilleux. Ça, Gava, Goa. Quand je vois la Gava, l'orgueil des idolâtres, des rois qui s'asseyent et qui ne pensent pas à moi, qui leur a donné la royauté? Que quelqu'un, eux, que ce soit Nabucodonosor, que ce soit Titus, que ce soit qui veut, Nimrod, qui vient me créer, ne serait-ce que l'aile d'une mouche, d'un moustique. Et ils sont là, se pavaner, assis. Alors l'Éternel, je porte. Elle n'est qu'à mot Adonai, elle n'est qu'à mot Fia. Il ne sait chauffer ta ares, achev gemul al-geim. C'est un psaume de Dieu de vengeance, l'Éternel. Ramène ta gloire et fais descendre la punition, le châtiment sur les orgueilleux. De quoi s'agit-il? De ça. Voilà une raison que Eliyahu Navi, en personne, lui qui connaît tous les secrets, il dit à ramener au rail pourquoi il y a le tremblement de terre. On va s'arrêter là et on va expliquer Be'ezrat Hashem à la suite. On vous dira quand, si Dieu veut. Grosso modo, en substance, en filigrane, on apprend beaucoup de choses. Nous devons, nous, le Ham Israël, être reliés avec Retsono Shel Makom, faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, beaucoup de réponses vont être dites. La volonté de Dieu, c'est qu'il voit ses enfants parmi les nations. Il verse de larmes. J'ai expliqué le fondement, la philosophie, le mysticisme qu'il y a dedans. Rabbi Nehorai, il donne une autre raison. C'est pour cause de ne pas faire la dîme, le maaser, la tzedaka aujourd'hui. On ne va pas dire qu'il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de loi de dîme, de trauma. Il y a aujourd'hui la Torah qui existe. Et le Ham Israël, il sait qu'il est associé à cette Torah. Combien un être humain, combien un chacham, s'il est hacham, il a compris le réchit de Bereshit. Lorsqu'il prend, il gagne dans sa vie, il prend les prémices de ça, et il aide la Torah, l'étude, les pauvres, le hatan des kala, des gens qui ont besoin. Combien il est élogieux devant Hachem Bar. Il peut éviter le tremblement de terre. La troisième raison, c'est Eliyahu HaNavi. Mais il va y avoir 10 raisons avec les deux Hachem. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit, lorsque Dieu y voit que son temple, sa maison, ça veut dire notre maison, elle est détruite, il a beaucoup de peine. En voyant les nations, les idolâtres, Yoshvim, Al, ils sont assis sur leur cocotier, au-dessus de leur vigne, de leur dattier. Et ils boivent, ils se saoulent, ils rigolent. Dieu, il dit, waouh, Je ne suis pas content de ça. Donc en fait, il se venge, si l'on peut dire ainsi. Enfin, il fait justice à cet orgueil mal placé qui n'est pas les fils d'Hydro chez leur âme. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ordre de la structure que j'ai créée dans le monde. Alors, il renverse la terre. Elle tremble. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Voici trois raisons. Nous avons expliqué. Nous avons donné ici des termes très puissants sur Zevaot, Zerivut, c'est parce qu'il y a une injustice. Ou bien Ve'azut, c'est très puissant ça. Ve'azut, l'audace et l'effronterie. Et Gava Goha. Tout ça, c'est un grand travail. C'est des recherches avec l'aide de Hachem. Merci. Hachem il Barar. Tu m'as éclairé dans ce domaine. Peut-être parce que j'étais dans un temple de la Soulika. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai visité les tzaddikim du Maroc. Ça m'a donné comme ça un esprit de. Peut-être. C'est sûr et certain. Avec l'aide de l'Arkadosh et des tzaddikim. Et ça nous donne un aperçu de ce que nous pouvons être. Et ne pas laisser la terre de notre corps subir les maladies qui viennent de l'extérieur, de l'orgueil, de la hazout. Comme c'est marqué dans le sage, je vais aspanim la guéhinnam. Celui qui a un visage effronté, c'est l'enfer. Oui, bien sûr, c'est l'enfer. Si quelqu'un se trouve entre le fer et la tonne de gravats, c'est l'enfer. Ça vient à cause de Aspanim, effronté que tu es. Ou bien celui qui ne fait pas la dîme, celui qui passe Tzedaka, alors qui peut donner, donne. Si tu as 100, on te dit donne 10. Tu sais pourquoi? Parce que tu risques de garder que les 10. Et les 90, tremblement de terre. Ciao, rah. Fais attention. On le voit qu'Akadouk, il observe la terre. Il observe les montagnes. Qu'est-ce que c'est les montagnes? Ce sont les orgueilleux. Il fait sortir de les volcans. Le feu qui brûle. Bereshit, Berit Esh. Donc je prendrai le mot Esh pour la fin, qui ne veut pas dire le feu, ni le séisme du volcan, ni le tremblement de terre. Je dirais que Esh, c'est Aleph Emouna. La foi, la croyance. Shin Shalom. Berit Esh. La Torah, qui est l'alliance, elle nous amène à Emouna. Shin Shalom. La paix. Merzat Hashem. Lorsque tu donnes aux pauvres, lorsque tu donnes à l'orphelin, tu amènes la paix dans le monde. Par ta émouna. Parce que tu as confiance, tu n'as pas peur. Tu peux planter la tzedaka, il te pousse la Yeshua. Tu plantes Maaser, tu plantes Dekepa. Tu as la délivrance, tu as le salut de Hachem, le sauvetage, la liberté. Amen, amen. Bonsoir à tout le monde. Kol Tov. Bezrat Hashem, on trouvera un autre moment pour faire un cours. En tous les cas, vous êtes extraordinaire de suivre ces cours. C'est pas évident. Moi, je parle, vous vous écoutez. C'est difficile d'écouter. On a envie de parler. Comme il a dit Moshe à Yitro, qui lui a donné le conseil des juges. C'est marqué dans la Torah. Vaishma Moshe, vaita benav. Et Moshe, il a entendu. Et ça lui a plu. Qu'est-ce qui lui a plu? Le conseil. C'est vrai. Mais le Ktav Sofer, un des grands maîtres, il dit, et Moshe, il parle tout le temps, comme moi. Je parle, je parle, je parle. Mais Moshe, quand il a écouté, il a dit, combien c'est bien d'entendre. Combien c'est beau d'écouter. Merci à vous. Hazakomor. De même façon que vous écoutez les Dvar Torah, que Hachem, il écoute toutes vos prières. Que Hachem, il vous donne, il exauce dans les oreilles du ciel tout ce que vous demandez. Parce que vous écoutez, vous aimez la Torah, vous faites kavod à la Torah, Qu'Hachem, il vous donne tout. La Emouna, le Shalom, la richesse, la joie, le bonheur, les Zivugin, tout ce que vous souhaitez, Be'azat Hachem. Et toujours avec la Emouna et le Shalom. Kol Tov, Bracha Vatzlacha.